Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.
Mais oui, c'est Human aujourd'hui. Bienvenue à toutes et à tous avec un nouveau thème africain avec les femmes d'Afrique qui sont autour de nous. Un thème intitulé « Femmes inspirantes d'Afrique et d'Europe » parce que nous avons aussi des femmes françaises qui sont avec nous, des femmes européennes. Et la première de ces européennes est une italienne, je crois. Luisida De Jesu, avec qui j'ai le plaisir co-animer cette émission. Bonjour Luisida.
Bonjour Pierre-Alain.
Voilà, donc Luisida, tu représentes Agir Ensemble pour les droits de l'homme.
Oui.
Qui organise cette semaine autour des femmes africaines.
Oui, alors Agir Ensemble pour les droits de l'homme, ONG lyonnaise, organise cette semaine avec quatre femmes défenseurs des droits venues de quatre pays d'Afrique centrale. Et on a notamment demain, jeudi, Le jeudi 12 mars, on a organisé une conférence sur une table ronde sur l'égalité des genres.
Voilà, égalité des genres sur lesquelles nous avons également fait une émission. Autour de cette table également, Catherine Erané. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Voilà, donc vous êtes la responsable... vous allez nous dire de quoi?
Alors, je suis la directrice du CIDF Rhône, Centre d'information sur les droits des femmes et des familles du Rhône.
Voilà. Et on verra tout à l'heure que c'est un privilège que nous avons en France et en Europe que d'avoir des organisations publiques ou semi-publiques, ou en tous les cas financées partiellement par des fonds publics, et qui permettent aux femmes de connaître leurs droits. Et puis, nous avons nos trois Africaines. Et j'ai nommé Nathalie Zemo Efoua. Nathalie.
Bonjour, Pierre-Alain. Merci à Bebel Art de m'accueillir encore aujourd'hui, me donner la possibilité de porter la voix de la femme gabonaise.
De la femme gabonaise. Je crois que vous êtes une consultante.
Oui.
Vous êtes une femme indépendante aussi professionnellement. Vous êtes une sorte de DRH extérieur, c'est ça? On peut dire
exactement,
comme ça?
Exactement. Ouais. Vous avez tout bien résumé. Donc, moi, j'ai un cabinet privé que je dirige, que j'ai créé avec une associée française, d'ailleurs, avec qui nous travaillons depuis 20 ans maintenant, et qui est spécialisée essentiellement dans le conseil en gestion des ressources humaines. Nous faisons de la gestion des ressources humaines externalisée.
Voilà.
Mais ce n'est pas tout à fait le sujet qui m'emmène ici.
Non, je comprends. Mais enfin, c'est intéressant aussi de savoir que voilà, il est possible de développer une activité féminine et d'avoir un métier Monsieur. Indépendant, une espèce de profession libérale. Et puis Anne-Marie Nzila, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes syndicaliste.
Oui, je suis présidente de l'Union des syndicats du Congo, en sigle USC. Et je suis de la République du Congo, ancienne capitale de l'AEF.
Voilà. Et autour de cette table encore, Thérèse Bien-Née, la bien nommée, Mendo Manga, bonjour.
Bonjour.
Vous vous appelez Bien-Née?
Je me prénomme Bien-Née, c'est mon
oui.
deuxième prénom, Pierre-Alain.
Oui, pardon. Et c'est Thérèse, votre premier prénom.
D'accord, je m'appelle Mendo Manga Thérèse Bien-Née, comme le dit si bien Pierre-Alain. C'est un prénom apparemment qu'il aime beaucoup. Je suis camerounaise et je suis coordonnatrice cellule genre et leadership féminin à la 2HRC, Health and Human Rights Cameroun, qui fait dans la santé sexuelle et reproductive et dans les droits humains.
Voilà. Et puis, j'allais dire la 1, 2, 3, 4, 5, 6e femme que nous avons autour de cette table s'appelle Pierre-Yves Ginet. On lui dit bonjour d'abord. Bonjour Pierre-Yves.
Bonjour.
Voilà. Et puis, on lui a fait une petite surprise. Écoutez.
C'est quoi un homme quand il se terre, quand il se cache pour pleurer, quand il a peur, quand il a mal à en crever? C'est quoi un homme quand il est lui, qu'il ne ment pas? C'est quoi un homme?
Voilà Pierre-Yves Ginet, pardon pour cette petite blague qu'on vous a faite. Voilà, vous êtes rédacteur en chef, co-rédacteur en chef d'une revue.
Alors, je suis co-rédacteur en chef, j'insiste beaucoup là-dessus, avec une co-rédactrice en chef d'une revue qui s'appelle Femmes ici et ailleurs et qui est un bimestriel consacré à tout ce que font et sont les femmes ici et ailleurs dans toute leur diversité, mettre en lumière toutes ces femmes agissantes, inspirantes auxquelles on doit beaucoup et auprès de qui on prendrait davantage à les regarder plus, à les écouter plus. Voilà.
Voilà, j'ai beaucoup apprécié votre revue et en particulier le mot que vous venez de prononcer, inspirante. Et donc nous sommes avec des femmes d'Afrique et d'Europe qui sont inspirantes, Louisida, parce qu'elles nous donnent des idées et qu'elles sont supposées donner aussi d'autres idées aux autres femmes et de leur pays et de France et d'Europe. Alors voilà notre sujet posé. Je crois que l'un des axes de notre débat d'aujourd'hui, ça va être de marquer les différences qui peuvent exister, qui n'existent pas nécessairement, mais qui peuvent exister entre les statuts féminins dans chacun de vos pays. Vous représentez trois pays d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, et ce qui peut se passer en France, en Italie, bref, en Europe. Alors, je ne sais pas qui vous commencez, sans doute Catherine Erané, vous avez une vue globale des droits des femmes, puisque votre travail consiste à tenter de faire valoir leurs droits et de leur permettre d'exercer leurs droits. Ça commence par quoi ?
Alors, l'objet associatif des CIDF, c'est la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et cette promotion de l'égalité, nous partons du principe qu'il faut d'abord passer par l'accès aux droits, connaître ses droits pour être des citoyennes et des citoyens engagés, pour savoir ce que l'on peut faire et pas faire. Et donc, du coup, le cœur de métier des centres d'information sur les droits des femmes et des familles, c'est l'accès aux droits, avec des permanences juridiques, avec des collectifs qui permettent aux femmes, puisque nous, 87% de notre public sont des femmes, qui permettent aux femmes de savoir ce qui est possible de faire et comment agir pour pouvoir mettre en place leurs droits ou revendiquer leurs droits. L'autre axe qui est au cœur de notre structure associative, c'est la promotion de l'activité professionnelle, puisque pour être autonome, il faut d'abord être autonome financièrement. Et c'est pour ça que nous avons une activité de retour à l'emploi, soit via l'emploi salarié, soit via l'entrepreneuriat au féminin. Aujourd'hui, à titre d'exemple, dans le Rhône, nous informons 8000 personnes par an, dont 87% des femmes, et nous accompagnons au retour à l'emploi 1500 femmes par an, principalement sur la métropole de Lyon.
Et votre budget est un budget d'origine publique ?
Alors oui, puisque les CIDF ont un statut particulier dans le sens où nous sommes un statut associatif avec un agrément de l'État. Et cet agrément de l'État permet de nous financer via le ministère des droits des femmes. À titre d'exemple, le CIDF Rhône, c'est un budget de 2 millions d'euros et les droits des femmes représentent annuellement 100 000 euros. Le reste, ce sont d'autres fonds publics qui viennent de l'Europe, d'autres ministères en France, de la Caisse d'allocation familiale, des collectivités locales, etc.
Un véritable tour de table financier comme une ONG, j'allais dire.
Exactement. Moi, mon métier, c'est d'aller chercher des fonds.
Il faudra que je vous demande des conseils. Voilà. Alors peut-être que je me tourne vers notre syndicaliste Nathalie, parce que est-ce que ce type de structure peut exister ?
Je veux dire... C'est Anne-Marie d'abord.
Anne-Marie, pardonnez-moi.
Oui, c'est Anne-Marie. Oui. Bon, ce type de structure chez existe.
Vous.
Chez nous, ça n'existait pas encore.
Voilà.
Peut-être que c'est qu'il faut les mettre en place, mais en ce moment-là, il faut qu'on nous donne le secret comment ils ont pu faire pour arriver à ce niveau-là. Parce que généralement, c'est vrai que dans notre pays, nous avons un conseil de la société civile, certainement qui doit être financé, mais il ne s'occupe pas de toutes les associations. Et au niveau du ministère de la promotion de la femme, généralement, ce sont les organisations qui naissent pendant qu'il y a un ministre qui est là. Et quand le ministre est relevé, après 2 ans, 3 ans, il part avec toutes ces associations et c'est d'autres associations qui arrivent. C'est pour ça qu'il faut qu'on aille vers... une réglementation qui puisse faire qu'il y ait des associations qui doivent rester stables et des associations bien structurées qui doivent bénéficier d'un financement, par exemple, de l'État.
Pour nous. Alors, on peut peut-être demander à Catherine comment ça s'est fait historiquement.
Alors, historiquement, oui. C'est une volonté politique de l'État. C'est-à-dire que les centres d'information féminins, quand ils sont nés, c'est, on est au début des années 70, donc on est en France dans le mouvement de libération des femmes, avec en même temps une loi sur la formation professionnelle qui est en train d'arriver, et avec une vraie volonté de permettre aux femmes de connaître leurs droits, notamment sur la formation professionnelle. Et à ce moment-là, l'État a dit, et alors la particularité, c'est que ce sont trois hommes qui ont dit il faut à tout prix qu'il y ait des structures qui permettent aux femmes de connaître leurs droits et de promouvoir ces droits-là.
Donc ça venait, ça venait d'un ministère
Ça venait de plusieurs hommes politiques et très proches du Premier ministre. Oui. Et le premier local et la première antenne du centre d'information féminin est ouvert dans une annexe de Matignon. Donc il y avait une vraie volonté politique de l'époque de mettre ça en place. Et puis après, ça a infusé sur l'ensemble du territoire, puisque aujourd'hui, il y a un CIDF par département.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une différence droite-gauche sur ce terrain-là ?
Pas spécialement.
Non ? Non. Voilà, c'est intéressant.
Oui. Pas spécialement. Alors, il faudrait que je développe beaucoup plus. Aujourd'hui, on voit vraiment des collectivités locales, qu'elles soient de droite ou de gauche, complètement agir pour la question de l'égalité femmes-hommes, et d'autres collectivités qui vont être de droite ou de gauche et qui vont se sentir beaucoup moins concernées.
C'est plutôt une bonne nouvelle, non ?
Bah, c'est plutôt rassurant, c'est-à-dire que la question de l'égalité femmes-hommes, ça veut dire qu'elle est transpartisane et qu'il va y avoir des gens intéressants partout.
Oui, oui. Comment ça se passe en Italie, Luisina, si je peux me permettre de te poser une question? Est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'il y a des structures du même type? Est-ce que l'évolution depuis une cinquantaine d'années, depuis les années 70, dont parlait à l'instant Catherine Erané, a été suivie de la même manière en Italie?
Certainement, les années 70, tous les changements qu'il y a eu à cette époque ont fait changer, avancer les mentalités à l'époque. Donc, par exemple, si on parle des années 70, il y a eu la loi sur le divorce qui a suivi justement tout le mouvement social qu'il y a eu à l'époque. Donc, les femmes ont certainement gagné en droit. Après, je crois qu'on n'a pas une structure de telle envergure en Italie. Mais en effet, oui, c'était à cette époque-là qu'on a pu avancer sur plusieurs thématiques, notamment je parle du divorce ou l'avortement, et voilà, et que peut-être aujourd'hui sont plutôt remises en cause ces genres de sujets, si on parle surtout de l'avortement, et qu'en France aussi peut-être il y a une régression, mais peut-être on en parlera plus tard dans cette émission.
Oui, 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 certainement. De quoi, par exemple?
Par exemple, de tout ce qui est le droit à la PMA, par exemple. Oui. Il y a eu des manifestations contre ces genres de droits.
Oui.
On en parlait aussi ce matin parce qu'on a eu une...
Alors, PMA...
procréation médicalement assistée.
Voilà, procréation médicalement assistée.
On a eu, par exemple, un échange ce matin chez l'Institut Bioforce. Oui. Et en effet, on faisait état d'une forme de régression dans les droits des femmes. Et donc, on avait abordé cette thématique et j'ai trouvé ça intéressant de...
Alors, est-ce que sur ce sujet de la PMA, est-ce qu'il y a une différence flagrante avec, j'imagine que oui, je risque pas de me tromper beaucoup, mais on va voir. Donc, je vous interroge toutes les trois, je sais pas qui veut prendre la parole sur ce sujet. Est-ce que sur le plan d'abord de la légalité, est-ce que le droit a évolué, j'allais dire, dans la même direction et aussi vite qu'en Europe, enfin, que selon les pays, évidemment, c'est différent selon les pays, ou pas?
La question de la PMA, nous en entendons parler de notre côté
Nathalie,
du monde.
Oui.
Nathalie, oui, présidente du réseau Femmes Lève-toi, Reflet.
Oui.
Donc, cette question de la PMA, on en entend parler surtout à travers vos médias, parce que nos préoccupations sont assez lointaines de là pour l'instant, dans notre partie du monde, sur la question de l'égalité. Nous en sommes encore à nous battre pour l'égalité d'accès à l'éducation. Ce n'est pas le cas dans mon pays, le Gabon, où cette question, il faut le reconnaître, a bien avancé puisque l'accès est égalitaire et bien admis au niveau des familles d'envoyer aussi bien la fille que le garçon. Par contre, nous avons des problématiques de violences faites aux femmes sur lesquelles, et aux petites filles, avec notamment des questions de proxénétisme qui vont jusque dans les établissements scolaires, de dégradation des mœurs. de conditions d'éducation où vous avez des salles de classe de 200 élèves ou avec une carte scolaire qui pose encore problème et qui fait d'ailleurs l'objet assez régulier de grèves dans le système éducatif, parce que l'autonomisation commence par l'éducation, ça c'est sûr. Donc nous avons ce genre de défi assez basique qui fait qu'aujourd'hui le débat du genre et de la PMA qui n'est pas encore tout à fait en conformité avec notre culture locale.
Oui.
Et peut-être un peu, on en est encore un peu loin. Aujourd'hui, on essaye d'obtenir, je crois, Thérèse est mieux placée pour en parler déjà, la reconnaissance de certaines libertés pour les genres.
Chaque chose en son temps, en quelque sorte.
Chose en son temps, et ce n'est pas vraiment nos problèmes prioritaires aujourd'hui, la PMA. Je crois au Gabon, en tout cas, pour ce qui est du Gabon.
Oui.
Donc, le débat n'existe pas encore.
Bon, en tant que débat au niveau du Congo-Brazzaville, ça n'existait pas encore.
Anne-Marie.
Vous savez que, je veux dire, Congo-Brazzaville, ancienne colonie française.
Oui.
Et tout ce qui se passe pratiquement en France, nous suivons ça. Et le lendemain matin, je crois qu'il y a des mentalités qui essaient d'évoluer un tout petit peu. Mais le débat n'est pas encore instauré, mais il y a de ceux qui commencent déjà à le pratiquer.
Bon, ben voilà, ben écoutez, vous savez pas ce qu'on va se faire, on va se faire une petite pause musicale, hein. Et je vous propose Pierre Aken Dengue, chant du coupeur Dukoumé.
Le bas d'avant nous, nous m'avons pas l'engagé Dengue Mambia. Je suis de nouveau tout d'abord. Au col rouge, au col rombène. Canerène. Derène. Ma hache défie le bois, ma hache mord le bois, ma hache déteste le bois, je connais ma hache. Quand elle rit, quand elle pleure, quand elle se fâche, ma hache mord le bois. Le soleil mord mon corps, ma hache déteste le bois, et moi, je déteste l'air. La journée est longue, mais moi, je ris. La journée est pénible. Mais moi, je chante. La fin du mois est stérile, je bosse. La fin du mois est stérile, je chante. Mes poches sont vides, je chante. Mes journées sont rudes, je chante. Je chante. Mes doigts sont en sang, je bosse. Je n'ai point de repos. Je n'ai point de sommeil. Ma nuit, des cauchemars, les pleurs des enfants qui ont faim et qui veulent chaque jour un peu plus, un peu plus. De bon matin, je cherche ma hache mord le bois, ma hache défie le bois, ma hache déteste le bois, et moi, je déteste l'air. Le soleil mord mon corps, je chante. Les moutes têtes sucent mon sang, je chante.
C'était Pierre Aken Dengue, donc chanteur engagé gabonais. Est-ce que Nathalie, tu veux nous en parler un peu plus?
Écoutez, c'est particulièrement agréable pour moi d'écouter Pierre Aken Dengue à plusieurs milliers de kilomètres du pays, parce que c'est un de nos chanteurs mythiques. C'est celui qui a chanté pour le Gabon à travers le monde depuis mon enfance. Moi, j'ai encore le 33 tours du Cooper de Koumé. Et c'est un chanteur engagé qui chante la liberté, qui chante les questions de gouvernance. Et il a été conseiller de l'ancien président de la République. Ce qui a toujours surpris les gens parce qu'il a une parole très libre, voilà. Ça fait plaisir de l'entendre si loin.
Ok, merci. Tout à l'heure, on parlait de l'accès aux droits pour les femmes, donc avec Catherine Erané de la CIDF. Et donc, je me demandais, en Afrique, donc cet accès, ça se révèle pour vous l'enjeu fondamental, j'imagine, dans vos combats, l'accès à l'information, aux droits, pour que les femmes puissent être autonomes et prendre le leadership. Qui veut me répondre, Thérèse?
Effectivement, je pense que le leadership passe d'abord par la formation, parce qu'il faut que la femme africaine prenne conscience du potentiel qui sommeille en elle. Parce que généralement, on dit le problème de la femme ou de l'évolution de la femme, c'est la femme elle-même, son manque d'assurance, son manque de confiance en elle. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises sur le plan local, sur le plan national et sur le plan sous-régional Afrique. Mais ça ne reste que des décisions, des initiatives, des tables rondes et autres. Mais au moment de la mise en œuvre ou bien de la mise en action de ces différentes actions ou bien de la concrétisation, il n'y a pas d'évolution parce qu'elles sont bloquées. Parce qu'à un moment donné, il manque d'assurance et autres. Donc, je pense que sur ce qui concerne le leadership, il faut d'abord qu'elle prenne conscience d'elle-même, du potentiel qui se trouve en elle. Maintenant, il y a des formations et toute autre chose par lesquelles il faudra prendre des mesures appropriées. Et je donne la parole à ma grande sœur Nathalie, qui est mieux placée en ce qui concerne le leadership, parce que c'est son domaine spécifique.
Merci Thérèse Bien-Née. Et en effet, l'intérêt de cette semaine pour nous, c'est ces partages d'expériences, de découvrir ce que font les autres organisations de la société civile ici en France, de voir comment elles fonctionnent, de comparer avec ce qu'on fait chez nous. Et l'exemple CIDF est intéressant parce qu'il est sur la durée. Il est sur la durée. Catherine nous expliquait que cette organisation a été mise en place en 70 et permet aux femmes d'accéder à une connaissance de leurs droits et à des compétences. Et la difficulté chez nous, pour ce qui est du travail qui est fait pour l'égalité hommes-femmes, c'est qu'on a l'impression qu'il y a plusieurs expériences qui tournent souvent court. On a créé les maisons de la femme, ça n'a pas duré. On crée les ministères de la femme, mais on change. Nous, cette année, je crois qu'on est au troisième intitulé. On a eu le ministère de la décennie de la femme, on l'a annulé. On a recréé le ministère de la promotion de la femme qui existait déjà il y a 10 ans. Donc, voilà, on recommence souvent. Et
Si ça peut vous rassurer, on a des expériences qui sont relativement semblables. Les noms des ministères et des secrétaires d'État, des secrétariats d'État changent et évoluent un peu au gré des campagnes politiques, je dirais.
Oui, mais là, c'est compensé par le fait que l'État accepte de travailler avec des structures partenaires qui durent dans le temps, que nous n'arrivons pas à mettre en place pour l'instant comme partenariat collaboratif dans nos pays où les organisations de la société civile en général n'ont pas vraiment un statut. On fonctionne sur des récépissés parfois qu'on a du mal à obtenir. Il faut dire que...
Des récépissés de déclarations de vos associations
qui sont délivrées par le ministère de l'Intérieur. Et souvent, on considère que certaines de nos organisations sont plutôt opposantes parce que peut-être on a un peu une liberté de temps qui peut être dérangeante et donc ça freine un peu la collaboration entre la société civile et les pouvoirs publics. Et là, c'est un exemple de parfaite réussite de collaboration dans ce combat de l'égalité des genres qui demande effectivement l'implication de tous.
Et des Catherine Erané, c'est parfait ce que vous avez, ce qu'on a en France, c'est idéal.
Alors, bien sûr que non, ce n'est pas parfait. puisque agir pour les questions d'égalité, même si aujourd'hui on en parle un peu plus, moi je leur disais, ça fait 29 ans que je suis au CIDF, j'ai vu une véritable évolution, et qu'est-ce que ça a pu être il y a quelques années, ce que c'est maintenant. Donc non, bien sûr, tout n'est pas parfait, que bien sûr, toutes les organisations associatives ne sont pas forcément au même niveau, et que régulièrement, on a des subventions qui sont en danger, et qu'il faut qu'on remonte au créneau pour régulièrement dire il n'est pas possible qu'on nous baisse de cette façon-là, etc. Donc non, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Pour autant, je disais au démarrage que on a une sécurité dans nos activités, dans le sens où nous ne sommes pas, nous, mis en danger, et nous ne sommes pas reconnus comme des affreux activistes mettant en danger l'équilibre du pays.
Voilà, c'est-à-dire que vous avez des emplois salariés, il y a une régularité dans le temps, il y a un budget annuel.
La particularité des CIDF, c'est que nous avons fait le choix, puisque nous, le cœur de notre association, c'est la promotion de l'égalité et l'autonomie des femmes, et que nous avons souhaité l'appliquer à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être bénévole d'association, ne pas travailler, ne pas être autonome et défendre ça. Donc nous, c'était d'abord avoir des salariés qui ont, avec des salaires qu'on tente d'avoir à égalité avec d'autres types d'associations, pour que les femmes qui sont salariées dans nos structures puissent avoir une autonomie réelle, professionnelle.
Ça ne vous empêche pas, j'imagine, d'avoir aussi des bénévoles.
Alors, nous n'avons pas de bénévoles sur l'action directe en direction des publics. Les bénévoles sont dans les organes de gouvernance, puisque nous sommes une association. Donc, il y a un conseil d'administration, il y a un bureau où là sont les bénévoles. Mais l'action en direction des femmes et l'ensemble de l'opérationnalité est portée par des salariés.
Voilà. Alors parmi les sujets qu'on a commencé à traiter pour marquer ces différences Afrique-Europe, qu'est-ce que vous verriez comme autre thématique qui marquerait justement l'une de ces différences? Je ne sais pas, le système judiciaire, le statut des défenseurs par exemple?
Alors, je le disais tout à l'heure, nous ne sommes en danger de rien, c'est-à-dire que nous pouvons porter une parole absolument libre sur la question de l'égalité femmes-hommes, même si quelquefois on a du mal à l'entendre, hein, que les personnes, mais on n'est jamais mis en danger pour la parole que nous portons. Donc ça, c'est une chose absolument majeure par rapport à ce que nous racontaient les collègues des autres pays, qui Thérèse disait heureusement que je suis une sportive et que je sais courir vite. Moi, ça ne m'est jamais arrivé d'être obligée de partir et de me sentir en danger et de partir en courant.
Vous avez eu des problèmes, Thérèse, des fois?
Oui.
Quoi,
oui,
par
parce
exemple,
que,
une
parce
histoire
que
concrète.
Sur le terrain, on travaille avec des populations vulnérables. Et quand on fait avec des populations vulnérables, comme les personnes vivant avec le VIH, des réfugiés, les LGBT, ce qui est puni par la loi, parce qu'il n'y a aucune loi qui c'est zéro tolérance, en fait. Donc forcément, on est exposé. Donc moi, j'ai eu un cas où il fallait descendre sur le terrain. Il y avait un bénéficiaire qui se trouvait dans une situation irrégulière vis-à-vis d'abord de sa propre famille. Parce que la plupart des cas, le rejet émane d'abord de ta propre famille. Parce que ma sœur voulait le téléphone pour envoyer ou appeler. Et sur le téléphone, elle est tombée sur un message qu'un copain envoyait. Et du coup... des choses assez sensibles, et du coup, il faut que tu nous montres, tu vas nous dire la vérité, tu vas. Un bénéficiaire peut faire appel à nous, et quand tu descends sur le terrain, tu trouves une situation et autre, et en pensant peut-être aller pour calmer la situation, c'est des lattes.
Familial, donc c'est un conflit familial.
Ça commence toujours en famille avant de s'accaparer, avant de prendre de l'ampleur.
Oui.
Parce que si ta famille t'expose déjà, nous sommes en Afrique,
oui.
Si ta famille t'expose déjà, on a nos mamans africaines et sont chez nous, on dit pala. Donc elle prend ton sujet, même le journaliste n'a pas son mot à dire, elle est dans la cour, le quartier sort. Et généralement, c'est des cas qu'on lapide. Donc quand tu fais face à une situation comme celle-là où tu es seule face à tous, tu sauves d'abord ta peau. Tu peux pas être défenseur des droits humains, vouloir encadrer les autres alors que toi-même tu n'es pas en sécurité. Donc la meilleure option dans ce genre de cas, c'est de lui dire ici, tu sais quoi, cours de toutes tes forces parce que je veux pas avoir à me retourner regarder si tu es là. Cours parce que moi, je vais foncer.
Sauf si elle ne l'a pas vu. Et vous savez pas ce que je viens de dire? Eh ben, c'est une manière de présenter la future musique. La musique qui arrive maintenant, qui s'appelle Elle ne l'a pas vu, c'est Charlotte Dipanda.
Dia te longe, na bina usa wa munyenge, minyola sibi,
lobeni mumusima. Si dimiana nika enu anyambe na belemo. Ton mimbumi tumbande bate ya moe tube. Alabe tomba si la ne tomba. Aye. Alabe tomba si la ne tomba. We a mama miyomba. We mama n'a pas vu. Non, non, non. Maman ne l'a pas vu. Non, non, non. Maman ne l'a pas vu, non, non, non. Bignon mena l'oben, matoi lo tate sosenga. Mwendi mou moi we, matete na moulema. Si timbe ananika, eno wanyande na belemo. Ton mimboumi, ton bande, bate ya mo edoube. La ne tomba, aye. Yeah. Elle avait tombé, si la ne tomba, ouais, à maman miyomba, ouais. Maman n'a pas vu, non, non, non. Maman ne l'a pas vu, non, non, non. Elle ne l'a pas vu, non. Et oui, un abalé, maman ne l'a pas vu, non, non, non. Maman n'a pas vu, maman n'a pas vu.
Nous sommes dans Human, nous sommes avec ces femmes inspirantes d'Afrique et d'Europe dans la francophonie. Voilà, et nous avons autour de cette table eh bien, Thérèse, Nathalie, Anne-Marie que nous interviewons avec Louisida. Et puis nous avons aussi Pierre-Yves Ginet. Alors Louisida, quel autre thème pouvons-nous aborder qui fasse ressortir ces différences entre l'Afrique et l'Europe?
Bah, en fait, tout à l'heure, on parlait de l'accès aux informations, aux droits des femmes. Donc, je voulais savoir, les systèmes judiciaires des pays respectifs de Thérèse, Anne-Marie et Nathalie, à quel point, en fait, ont mis à jour leurs règles, justement, pour permettre aux femmes d'accéder et pour défendre leurs droits. Je peux parler, par exemple, du droit, par exemple, on a parlé entre nous à l'héritage des femmes. Donc, voilà. Donc, si, par exemple, Nathalie, tu veux répondre à cette question sur le système judiciaire gabonais en particulier.
D'accord. Alors, sur, par exemple, la question des violences faites aux femmes, qui est une question récurrente, une problématique récurrente dans notre pays, il faut avouer que le gouvernement a pris en main cette question, avec en tête de file l'épouse du chef de l'État. Et donc, il y a une loi qui a été adoptée pour permettre à la femme plus facilement en cas de... Parce que quel est souvent le problème? C'est l'expropriation. Quand une femme devient veuve, par exemple, la famille du mari va chercher à s'accaparer séparée de ses biens. Et donc, pour être protégée, elle a besoin, là, bien sûr, de la loi. Elle a besoin de la loi, sauf qu'à l'époque, la loi exigeait qu'il y ait un conseil des familles, donc avec sa belle famille, ses enfants, qui la reconnaissent comme héritière. Et donc, par exemple, ce genre de disposition...
Héritière de son mari ?
De son mari. Voilà, parce que on a, il faut le dire, une législation qui est parfois un peu parallèle avec la coutume. Donc c'est vrai qu'il y a des textes de loi, mais la coutume reste encore, les coutumes restent très fortes et parfois notre tribunal est un peu hybride sur certaines questions. Il vous renverra.
Ce qui est normal, il faut bien voilà. que le tribunal s'adapte aussi au contexte, j'allais dire sociologique.
Tout à fait, mais parfois ça ne permet pas non plus d'avancer parce que la coutume elle a ses avantages, mais elle a aussi des inconvénients, comme par exemple exproprier ou déshériter une veuve. Ça c'est aberrant. Ça existe dans certaines de nos cultures nationales, locales. Et donc là, la loi doit protéger, a le devoir de protéger ses veuves, puisque d'après le droit, l'épouse est la première héritière. Donc on avait ce système, je peux dire, contradictoire. Et aujourd'hui, donc, il y a une loi qui a permis de faire tomber cette disposition sur l'obligation du conseil de famille.
Alors, ce qui est plus fort qu'en respecté. France, d'ailleurs, au passage, parce qu'en France, à ma connaissance, l'épouse n'est pas la première héritière. Elle va avoir un droit au maintien dans les lieux, en quelque sorte, mais elle n'est pas nécessairement, en droit strict, la première héritière. Alors, vous voyez, peut-être que vous êtes plus en avance que nous là-dessus.
Non, je ne suis pas juriste, je ne connais pas les détails de la disposition, je ne vais pas prétendre m'avancer dessus. Oui. Bon, donc ce n'est peut-être pas le terme juridique, mais en tout cas...
En tous les cas, une opposition entre un droit qui cherche à protéger le statut de la femme veuve survivante, en quelque sorte, par rapport à son logement, et de la coutume... qui disait que traditionnellement, eh bien, quand l'homme mourait, quand le mari mourait, eh bien, quoi, la femme disparaissait.
Elle retournait dans sa famille. Si la famille le voulait.
Si
la famille le voulait.
Et donc, vous allez utiliser les tribunaux pour...
Aujourd'hui, il y a plus de protection au niveau des tribunaux. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut aussi reconnaître, c'est que les tribunaux ne sont pas souvent suffisamment indépendants. Donc, on a plusieurs affaires où un dossier disparaît, où des décisions sont prises sans qu'on comprenne pourquoi, où la même affaire va durer plusieurs années. Et donc, sur, par exemple, les questions de violence faites sur les mineurs, vous comprenez qu'il faut un courage d'acier pour se battre contre une machine lourde déjà pour parler, c'est un tabou qu'il faut lever et ensuite quand on a levé, il faut être sûr de trouver une oreille favorable et un accompagnement. Et là souvent malheureusement, le dispositif d'accompagnement n'est pas encore suffisamment poussé.
Alors, on a avec nous trois femmes leaders, trois femmes fortes, très engagées.
Qui sont d'ailleurs au passage des exemples
de
prise de parole, d'autonomie,
voilà,
etc.
Voilà, le leadership féminin, donc on parlait tout à l'heure. Oui. Mais le leadership féminin, il faut qu'il soit accepté par les hommes, mais avant tout par le femme. Et c'est le combat que vous menez tous les jours pour que les femmes puissent prendre confiance en elles. Et je voulais savoir avec Pierre-Yves, alors c'est aussi un combat qu'on mène avec les hommes, voilà comment faire accepter aussi ce leadership féminin et vous, le travail que vous faites, c'est aussi à travers les médias, comment changer aussi l'image de la femme qui n'est pas seulement figée dans ses stéréotypes de femme, voilà, photomodèle ou autre qu'on voit dans des journaux, mais voilà, mettre en avant cette femme leader dans les histoires que vous racontez. Donc, je voulais d'abord que vous nous parliez de ça et de quelles sont les difficultés aussi en Europe par rapport au leadership féminin, à l'acceptation du leadership féminin.
Alors, je ne sais pas si je suis légitime pour parler de toutes les questions d'acceptation du leadership dit féminin, en tout cas des femmes. En revanche, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a une grosse disparité de visibilité entre les femmes agissantes, inspirantes, magnifiques d'un côté, et les hommes tout aussi inspirants, magnifiques et inspirants de l'autre côté.
Merci
c'est
pour...
En fait, en gros, non, mais on monopolise, en ce qui concerne l'espace, notamment l'espace médiatique, on va monopoliser 90% de l'espace. C'est-à-dire qu'on a les chiffres, aujourd'hui c'est mesuré. Nous on a créé ce magazine Famille C'est Ailleurs parce qu'on sait que dans 80% des cas, l'info parle d'hommes. Je dis pas homme journaliste versus femme journaliste, qui est un autre sujet tout aussi légitime. Je dis de quoi l'info nous parle. elle nous parle dans 80% d'hommes. Et quand elle parle des femmes, elle en parle en majeure partie dans des rôles dits féminins, la maman, l'épouse, la fashionista ou en tant que victime.
Ça c'est vrai, c'est une analyse qui a été faite sociologique pour tous les supports médiatiques français, européens.
Alors c'est pas une analyse sociologique, c'est une mesure de l'Observatoire mondial des médias.
D'accord.
Qui sur base de sondages tous les 5 ans prend la mesure dans, je crois, une centaine de pays dans le monde, dont la France.
Donc c'est
la
mondial.
France, oui, et la France est dans la moyenne mondiale, on n'est pas bon ni mauvais, on est au milieu quoi. Voilà.
D'accord. D'accord. On parle à 80% des hommes.
Ouais, quand le sujet n'est pas neutre, et pour répondre à la question quels médias, c'est les médias traditionnels, oui. Radio, télé, presse écrite.
Oui.
Et on sait que c'est les quelques sondages qui ont été faits sur la toile, c'est difficile de mesurer la toile.
Bien sûr.
Les quelques sondages qui ont été faits montrent que c'est pire.
Ouais.
Avec l'effet notamment grossissant, l'effet loupe, mais mécanique, hein, des réseaux sociaux.
Et quand on parle de la femme, ça, on parle de la mode, on parle de cuisine, on parle, etc., de sujets traditionnellement féminins. Vous voyez qu'on n'est pas très différent dans le monde de ce qui existe en Afrique, hein, j'ai l'impression.
Oui, il y a des pays africains, je pense au Rwanda, qui sont en avance sur nous.
Voilà.
Oui, complètement.
Par exemple?
Oui, le Rwanda est en avance sur nous sur ces questions
sur
de visibilité, de quelle visibilité on donne aux femmes. Il y a à la fois les rôles leaders. Alors le Rwanda a son histoire évidemment tragique de 1994 qui a amené avec de facto une majorité de femmes adultes, une immense majorité de femmes adultes, et donc elles ont pris les rênes du pays. La reconstruction du Rwanda.
Parce que tous les hommes étaient morts, hein, disons-le.
Pas tous,
enfin,
mais en tout
tous,
cas
beaucoup,
une majorité.
Quoi,
ouais.
Oui.
Et en tout cas, elles ont pris les rênes. Et quand on parle du miracle rwandais, moi j'attends toujours un média dans nos pays qui dise que ce miracle il a été fait par des femmes, majoritairement, tout simplement. Donc voilà, et l'Afrique, voilà. Et puis ce côté, donc cette invisibilité est importante. Pourquoi ? Parce qu'elle est vectrice de leadership. Mais là, je parle des médias. Ça peut être, c'est pareil dans les manuels scolaires, c'est pareil dans les fictions, c'est pareil dans voilà. Donc c'est tout ça, c'est vecteur, c'est les rôles modèles. Là, on revient à la sociologie. C'est les rôles modèles, et tout ça, c'est vecteur d'empowerment, de leadership chez les femmes. Et la France a pas de leçons à donner en la matière. Aux pays africains, parce qu'on vit la même chose. Il y a des initiatives qui existent, telles que la nôtre, hein, tant qu'à faire, on va y aller, mais c'est pas, ça reste ultra minoritaire. On est un magazine, certes national, mais rikiki sur la planète, quoi. Enfin, voilà. Donc,
vous tirez à combien pour avoir une...
On est à 5000 aujourd'hui.
D'accord.
Voilà. Et qui est sans publicité, sans voilà, uniquement avec les abonnements, etc. Donc, mais ça reste tout petit par rapport aux 400 000 du magazine Elle, quoi, hebdomadaire. Enfin voilà, par exemple. Donc ça reste des initiatives de type associatif, même si on n'est pas dans cette structure-là, on en vient de type engagé, militant. Enfin, je sais pas, il y a un engagement, mais ça reste epsilonesque. On a des confrères et consoeurs. Surtout des consoeurs, en l'occurrence, dans certains pays d'Afrique, je pense au tien, au Cameroun, il existe un magazine équivalent. Voilà, donc, on travaille main dans la main, on les suit, ils nous suivent. Voilà, on est vraiment au milieu du guet, nous, hein, on n'est pas meilleur qu'eux. Mais par contre, cette question de la visibilité de ce qu'elles font, de ce que vous faites, est extrêmement important pour faire avancer l'égalité. C'est les rôles modèles, c'est l'empowerment, c'est je peux y aller. Et le seul exemple à suivre, c'est pas Marie Curie, quoi. Marie Curie, c'est inaccessible. Seule personne avec 2 Nobel dans 2 disciplines différentes. Enfin voilà, nous présente ça depuis qu'on est petit. C'est montrons-les toutes les trois. Elles sont extraordinaires. Elles ont une patate incroyable. Moi, je suis admiratif quand je les écoute. Et même moi, en tant que mec, elles m'inspirent. Elles me donnent de la pêche. Elles me donnent de l'envie de marcher dans leurs pas, en fait. D'être peut-être petit derrière elles, mais de les suivre. Voilà. Et ça, c'est important, je trouve.
D'où l'importance d'impliquer les hommes. Et comme on disait tout à l'heure dans nos conversations, en effet, en Europe, on a encore du boulot à faire pour impliquer les hommes dans la question des droits des femmes.
Ouais, il faut qu'on aille à l'école sur le continent africain à ce niveau-là. Il y a beaucoup plus. C'est en train de changer avec les jeunes, les moins de 30 ans en France. Mais c'est tout récent. C'est tout récent. Mais si on se met 10 ans en arrière, moi j'ai 52 ans et 30 ans de vision de tout ça, on va dire, pour être caricatural. Il y a 10 ans ou 20 ans en arrière, leur pays, il y avait beaucoup plus d'hommes engagés dans les mouvements pour l'égalité entre les femmes et les hommes que dans les nôtres. Vraiment, il y a un échange très important à avoir. Ça ne veut pas dire que c'est parfait dans leur pays et que les hommes sont tous parfaits, c'est pas ça. Mais quand on regarde les militants, extrêmement peu nombreux, mais il y en avait dans leur pays. Alors chez nous, moi il y a 20 ans, ça tient sur les deux mains, hein, voilà quoi.
Bah parce qu'en effet, c'est un combat qui doit être universel. C'est pas que le combat des femmes. Et comme par exemple, Thérèse peut bien l'expliquer, dans les programmes, projets même de défense des droits des femmes, les hommes doivent être impliqués. C'est ce que tu me racontais ce matin.
Effectivement. Donc, tout à l'heure, quand on discutait, je disais que nous, dans notre association, la partialité est égale. Donc, c'est quoi ? Autant les hommes sont impliqués, autant les femmes sont impliquées. Et je pense que c'est, comment on va dire ça ? C'est une compensation, on se complète en fait, c'est équitable. Donc, je pense que l'homme a toujours été essentiel dans les aboutissements, dans des initiatives et dans le vécu au quotidien. Pour des causes féministes, féminines et qui va dans tout sens de l'égalité genre, égalité homme-femme, l'homme est une pièce maîtresse. Donc, je pense que ça ne peut être qu'un allié et un allié vraiment, vraiment, vraiment essentiel pour cette cause-là.
Vous avez des exemples, par exemple, dans vos projets ?
Nous, on essaye justement de renverser la tendance en ne faisant pas de l'homme la pièce maîtresse dans notre organisation. Et je dois l'avouer que nous avons commencé. Pourquoi ? Parce que le réseau Femmes Lève-toi a été créé en 2015 et essentiellement les membres fondateurs, c'était essentiellement des femmes qui venaient de mouvements associatifs et syndicaux mixtes. Et on se rendait compte qu'on avait beaucoup de mal avec les hommes à faire entendre notre spécificité, parce que souvent numérairement moins élevés qu'eux dans ces groupes, et puis parce que, je ne sais pas comment le dire, mais par l'éducation, une femme qui est trop insistante sur ses positions chez nous est une caractérielle, est une femme qui ne sait pas se tenir, et on attend d'elle qu'elle soit douce, et à la limite, voilà, qu'elle se taise quand l'homme a parlé. Donc même dans nos associations ou nos syndicats, parfois on retrouve ces schémas. Et donc, à un moment, ça nous a un peu énervés et on s'est dit, allez les filles, si on créait un peu notre groupe où on serait, nous, le moteur au devant de la scène. Maintenant, c'est vrai, là où je rejoins Thérèse, c'est qu'on ne va pas pouvoir changer la société, impacter la société en créant des groupes de femmes d'un côté et d'hommes d'un côté. Donc, de plus en plus, nous essayons d'attirer des hommes parmi nos adhérents. Aujourd'hui, sur 200 membres que compte le reflet, nous avons à peu près 10 hommes adhérents. Leur principale motivation, quand on leur demande, c'est de dire que pour eux, l'Afrique centrale a un mal de gouvernance et qu'il y a principalement des hommes aux commandes. Donc, il faudrait promouvoir les femmes pour qu'elles soient capables d'apporter aussi leurs spécificités.
Eh ben, c'est le moment d'écouter tranquillement « C'est quoi l'homme ?» de Vita Aeslimane.
C'est quoi un homme quand il se terre, quand il se cache pour pleurer? Quand il a peur, quand il a mal à en crever. C'est quoi un homme quand il est lui qu'il ne ment pas? C'est quoi un homme?
C'est fort une femme quand on nous blesse et nous accable, on ne se plaint pas. Quand on nous laisse, que tout le monde part, on reste là. Avec les restes, on reconstruit, on est comme ça. C'est ça une femme.
C'est quoi un homme?
C'est quoi une femme?
On fait semblant, on joue le jeu qu'on nous apprend.
Si t'es un homme,
si t'es une femme. C'est quoi une femme? Quand on l'empêche, quand on aimerait qu'elle ne dise rien. Quand on la laisse, quand on l'enferme dans un coin. C'est quoi une femme quand elle a peur de tes mains? C'est quoi une femme?
C'est bon homme qui n'a plus peur quand il faut protéger les siens. Devant sa mère, même le plus fort ne dit plus rien. C'est bonhomme qui ne trompe pas, qui se contient. C'est bonhomme.
C'est quoi un homme?
C'est quoi une femme?
On fait semblant, on joue le jeu qu'on nous apprend.
Si t'es un homme,
si t'es une femme. On nous demande d'être l'épaule, d'être les bras, de rester là et de sourire devant les gens quand rien ne va. On se demande bien trop de choses qu'on ne sait pas. On se demande si on pardonne la différence et toutes les remises en question. Si l'on oublie les idéaux, les illusions. Si on pardonne les faux pas, les déceptions. Je te pardonne.
C'était un homme,
c'était une femme.
C'est quoi un homme? Quand il se terre, quand il se cache pour pleurer. Quand il a peur, quand il a mal à en crever.
Devant sa mère, même le plus fort ne dit plus rien.
C'est quoi un homme?
Et voilà, nous sommes toujours dans Human et toujours avec nos femmes inspirantes d'Afrique et d'Europe. Alors, il y a un sujet peut-être qui serait à aborder, Louisida, c'est celui du statut des défenseurs.
Oui, parce que voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, si en Europe c'est facile de promouvoir la défense des droits humains, sur le terrain en Afrique, il y a beaucoup de difficultés. Le statut du défenseur n'est pas toujours facile à assumer. Donc, je voulais que Anne-Marie et Nathalie rebondissent sur ce sujet.
Merci, Lucida.
Anne-Marie.
Ce que tu abordes, c'est une question de fond. Parce que quand vous sensibilisez les autres sur les questions de droit, quand ils connaissent les droits par la suite, ça devient un autre problème. Et les gens deviennent indépendants. Et or, dans nos pays, on n'aime pas toujours des associations qui sont toujours indépendantes. Et nous courons beaucoup de risques en tant que les défenseurs des droits humains. C'est vrai que dans certaines organisations au niveau international que nous apportons, il faut aller vers l'élaboration d'une loi qui protège justement les défenseurs des droits de l'homme. Et quand je parle là, je fais allusion aux organisations que nous appartenons comme les partenaires, comme on appelle, comme les membres, ceux qui sont pour la... contre la corruption, par exemple, parce qu'en tant que syndicaliste, quand nous abordons les questions de corruption, vous savez ce que ça veut dire. Et les questions de gouvernance en général, vraiment, ça vous amène droit vers la prison. Or, on ne peut pas être défenseur des droits de l'homme sans connaître ses limites. C'est, vous défendez le droit, donc il faut connaître le droit. Il faut qu'il y ait une loi qui vous permette de pouvoir avancer sur ce terrain. C'est pour ça que cette loi, elle nous est nécessaire. Il faut qu'on fasse un travail de fin d'avoir une loi qui peut nous défendre. Et ce qui nous réjouit de temps à autre, c'est la collaboration que nous avons avec vous, qui fait qu'à un niveau donné, des fois, on ne nous écoute pas, mais à travers les partenaires que vous êtes, ça nous permet de nous de lever la tête. Sinon, vous avez les défenseurs des droits de l'homme qui sont toujours incarcérés dans nos pays.
Est-ce que ce genre d'invitation, c'est l'idée qui me vient, la question qui me vient à l'esprit, est-ce que ce genre d'invitation, c'est AEDH là qui vous a invité, toutes les trois, enfin vous êtes quatre, pour cette semaine particulière, est-ce que ce genre d'invitation, le fait d'aller en Europe, de faire des émissions de radio, de passer à l'image, à la télévision, etc., est-ce que ça vous donne de la force, du poids, quand vous retournez dans votre pays ensuite?
L'information protège.
Nathalie.
Faire connaître à tous sur quoi on travaille, et c'est très important pour nous. Créer des réseaux à travers le monde avec qui on échange sur nos différents engagements, c'est aussi extrêmement important et protecteur pour nous. Le fait que nos États aient ratifié des conventions internationales, c'est sûr, nous apporte un plus, mais reste insuffisant. Aujourd'hui, comme disait Anne-Marie, nous n'avons pas de loi qui nous protège. Les associations fonctionnent sur des lois de 1962, inspiré de la loi 1901 française, donc très restrictive.
Sur les associations.
Au Gabon, de défense des droits humains. Oui. Des droits humains qui ne disent rien sur cette question du statut de défenseur de droits humains ou autre. Et également, au Gabon, nous avons depuis 2018 une loi qui restreint l'occupation de l'espace civique, où pour faire toute activité publique, vous devez obtenir l'autorisation du ministère de l'Intérieur, et ça limite énormément nos activités. Alors, défenseur des droits humains, ça dépend de ce dont on parle. Quand vous vous battez en disant « ok, c'est contre la violence faite aux femmes », à la limite, on vous laisse vous exprimer. Parce que ça, tout le monde, ok, ça fait bien de le défendre, il n'y a pas de problème. Mais quand vous commencez à aborder la question de la violence faite aux femmes des prisonniers d'opinion, là, vous comprenez que votre discours commence à devenir gênant. Pourtant, c'est une violence de se faire retirer son mari qui n'est pas criminel du jour au lendemain, juste parce qu'il a tenu un discours qui dérangeait le pouvoir. Mais c'est des réalités que nous vivons encore dans notre pays et qui font partie de nos combats. Et sur lesquels, là, par contre, on a beaucoup moins de liberté que de former des femmes à des activités génératrices de revenus dans le secteur agricole, pourtant qui font partie de nos défis.
Merci Nathalie. Mais ces combats en Europe et en Afrique sont donc interdépendants, Pierre-Yves?
Oui, et sur les défenseurs, enfin, on a une réalité africaine qui n'est pas du tout la même que la réalité européenne pour les défenseurs, défenseuses. Mais il y a des pays en Europe, alors si on raisonne institution ou continent, il y a des pays en Europe aujourd'hui où ça devient de plus en plus compliqué. Enfin, être une militante des droits des femmes aujourd'hui en Pologne, en Hongrie, ou une militante pour les droits des LGBT, etc., c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui, avec des risques certains et avérés, qu'il y a 10 ans. Voilà, on a un retour en arrière aujourd'hui sur ces questions-là. Et l'interdépendance, oui, moi, les droits humains sont universels, les droits des femmes doivent être au même niveau universel, sans concession sur ces choses-là. On doit avancer, on ne doit pas faire tel ou tel compromis politico, je sais pas quoi, parce que telle ou telle culture, ou parce que telle ou telle réalité locale, ou tel arrangement économique, ou tel machin chouette, et on est interdépendant, oui. À chaque fois qu'on avance sur les droits des femmes chez nous, les copines du Maroc, d'Afrique noire, de machin, nous appellent en nous disant, c'est chouette, c'est vachement bien, faut qu'on vous suive, et à chaque fois qu'on recule, quand on a des droits qui sont mis en stand-by chez nous, eh ben elles appellent en disant, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire, vous merdez là, vous êtes en train de nous balancer les épines dans le pied, on est liés. Et voilà, enfin, la frontière n'existe pas pour les virus, elle n'existe pas non plus pour les droits des femmes, elle n'existe pas pour ça, on est liés.
Ben voilà, je crois que ce sera le mot de la fin. Merci à vous toutes d'être venues nous voir. Merci à Pierre-Yves Ginet aussi d'avoir bien voulu jouer le rôle de l'homme de service. Et puis voilà, et puis à bientôt à tous et à toutes pour un autre Human. À bientôt, salut.
Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.